إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 90 dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. C'est un livre écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. J'ai écrit 89 sur la radio et c'est une erreur de ma part, donc c'est le cours c'est 90 aujourd'hui. Et on continue à partir de là où on a laissé avant le Ramadan et avant les séminaires. On est arrivé à un passage où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, c'est en passant c'est la page 654 du volume 2 et c'est le passage numéro 52. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit: وكان المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا لا يعرفون وقت الحرب إلا بالسكينة وذكر الله سبحانه وتعالى. قال قيس بن عبادة وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit que les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, ils ne connaissaient pas dans le temps de la guerre excepté la tranquillité et la paix et le rappel d'Allah, hein. Et Qais ibn Ubadah, qui fait partie des grands parmi les tabi'in, il mentionne que les gens aimaient à cette époque-là parler à voix basse lorsqu'ils faisaient le dhikr, et également lors du combat, et également lors des funérailles. Donc ils n'aimaient pas lever la voix haute et parler fort dans ces choses-là. Et il dit le reste des narrations qui ont été rapportées à ce sujet impliquent qu'ils étaient toujours dans ces moments-là dans une tranquillité et dans le calme, hein, et le repos. C'était pas des moments où ils aimaient lever la voix ou crier, et leur cœur était rempli du rappel d'Allah et du respect de la noblesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils étaient dans ces situations-là, ils étaient tranquilles et calmes, posés, hein, comme ils étaient durant la salat aussi. Et le fait de lever la voix dans ces moments-là, ça fait plutôt partie de la tradition des coutumes des gens du livre ou bien des non-musulmans. Et malheureusement, par la suite, beaucoup de cette umma ont été éprouvées par ce genre de tradition et de coutume. Et il dit que ce n'est pas le moment de s'attarder trop sur les détails là-dessus. Mais Cheikh Al-Fawzan, il va donner peut-être plus de clarification. Il dit قوله كان المسلمون في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة يعني أن الصحابة كان يغلب عليهم السكينة لا سيما في أوقات العبادات وفي وقت الحرب والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Donc, lorsque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les musulmans, à l'époque de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après lui, ils ne connaissaient pas autre chose que le calme et la paix et la tranquillité lors de la guerre, il dit que c'est parce que les sahaba, ils avaient cette caractéristique-là, ils aimaient le calme et la tranquillité. Et en particulier, au moment de l'adoration et au moment de la guerre. Donc c'est pas comme les mouchriquines et les kuffars qui dans ces moments-là, eux, ils aimaient crier, ils aimaient faire du bruit, ils amenaient des tambours, hein, ils frappaient, donc ils aimaient crier et faire du bruit dans ces moments-là, tandis que les croyants, eux, les sahaba, ils aimaient plutôt le calme et la tranquillité. Et il mentionne le verset 45 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous qui avez cru lorsque vous rencontrez un groupe dans la guerre parmi les mouchriquins, alors soyez fermes et rappelez-vous d'Allah, rappelez-vous abondamment d'Allah pour que vous puissiez avoir le succès. Donc il dit فَالَّذِي يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوْ هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ مَعَ السَّكِينَةِ لِأَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى الشُّجَاعَةِ ورباطة الجأش رباطة الجأش أما استخدام الطبول ورفع الأصوات فإنما يدلان على الجبن إنما يدلان على الجبن وإن كان يزعم أنه يعني يرهب العدو فالمؤمن تملأ قلبه السكينة لأنه يعلم أن الله معه ويناصره يعني معه وناصره. Donc ici Cheikh Al-Fawzan il explique il dit que qu'est-ce que les gens utilisaient lors de la rencontre de l'ennemi, c'est le rappel d'Allah avec calme et tranquillité, hein, et d'être paisible. Et il dit que ça indique que quelqu'un, il est courageux et il est ferme dans son cœur, hein, il a de la fermeté dans les moments de difficulté. Et le fait d'utiliser des instruments comme du tambour ou des choses comme ça, ou bien d'élever la voix et de crier, il dit ça c'est uniquement quelque chose qui montre la peur. Et même si les gens qui font ça, ils pensent que ça effraie l'ennemi, le croyant, son cœur est rempli de tranquillité et de paix, et il sait que Allah est avec lui et que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la victoire. Il va lui donner la victoire et le défendre. Donc le cheikh dit قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وهذا يكون في أي موقف في موقف الخوف قال الله عز وجل ثم أنزل السكينة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وأنزل السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار في حالة الخوف فقال سبحانه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فعندما وقف الخوف تملأ السكينة والطمأنينة قلب المسلم لأن هذا يدل على أمرين. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 4 dans Surat al-Fath, ce qui signifie que c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait descendre la tranquillité dans le cœur des croyants pour qu'ils augmentent en foi avec leur foi, c'est-à-dire que pour que leur foi augmente avec leur foi, c'est-à-dire rajouter de la foi à leur foi. Et il dit dans quelle situation, dans quel contexte, il dit c'est dans les situations de crainte et de peur. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 26 dans surat at-Tawbah ce qui signifie: puis Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa tranquillité sur son messager et sur les croyants, et il fait descendre des armées qu'ils ne voient pas, et il châtie les mécréants, ceux qui ont mécru. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la tranquillité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi lorsqu'il est dans la caverne avec Abu Bakr radiyallahu anhu, et qu'il était dans une situation de crainte et de peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 40 dans surat at-Tawbah, et Allah a fait descendre sa tranquillité sur lui et l'a soutenu par des armées qu'on ne voit pas, que vous ne voyez pas. Et donc, dans des situations de peur et de crainte, eh bien, les cœurs sont remplis de sérénité, de tranquillité. Le cœur du musulman est rempli de tranquillité et de sérénité. Et il dit ça indique deux choses. أولاً انتفاء الجبن والضعف وثانياً يعني دليل على الشجاعة والإقدام لأن المؤمن يشعر بمعية الله معه. Donc premièrement, c'est le fait que l'absence de peur, d'être peureux, c'est-à-dire le croyant, il n'est pas peureux, il n'est pas faible, il a un courage dans son cœur et une force dans son cœur qui le pousse à rester calme et tranquille dans des situations de peur comme ça. Et il dit ça, c'est en fait un signe de du vrai courage, et que la personne, elle part de l'avant dans les situations comme ça. Et le musulman, il ressent que Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. Il ressent que Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. Il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَهَمِّيَةِ السَّكِينَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي شَتَّى الْمَوَاقِفِ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَيْثُ قَالَ لَهُ أنفذ على رسلك وفي هذا دليل على التمهل واستعمال الرفق في السير يعني إلى العدو وعدم الهيجان ورفع الأصوات فالمطلوب من المسلمين عند المواقف الصعبة ملاقات العدو السكينة والثبات والطمأنينة وعدم الخوف والقلق. Et donc le cheikh, il dit que ça, c'est une indication de l'importance de la tranquillité et du calme pour le musulman dans les différentes situations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu lorsqu'il lui a donné la bannière le jour de Khaybar. Il lui a dit unfud ala rislik, il dit pars sur ta monture. Et il dit ça, c'est une indication que il faut y aller doucement, il faut utiliser de la douceur dans la façon dont on avance vers l'ennemi, et de ne pas partir sauvagement en élevant la voix. Et il dit qu'est-ce qui est demandé donc des croyants, des musulmans, dans des situations difficiles comme ça et dans la rencontre de l'ennemi, c'est d'avoir de la tranquillité, de la fermeté et de la sérénité, et de ne pas avoir de la peur et de ne pas être troublé intérieurement. Il dit وقوله كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال أي أن سمت الصحابة خفض الصوت عند ذكر الله عز وجل لأن هذا يدل على الإخلاص من ناحية وأيضا يمنع التشويش إذا كان بجانبه من يذكر الله من ناحية أخرى خصوصا إذا اجتمع المسلمون في المسجد لانتظار الصلاة. فالواجب على الذي يذكر الله أو يقرأ القرآن أن يخفض صوته لئلا يشوش على المصلين والقارئين لكتاب الله. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون صلاة الليل متنزعين جماعات، وكان بعضهم يجهر بصلاته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يؤذن بعضكم بعضا. أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد. Donc le cheikh il explique que donc il mentionne que les sahaba ils étaient donc dans avec une ils aimaient baisser la voix avec le rappel d'Allah quand ils faisaient le dhikr, le rappel d'Allah, et lorsqu'ils partaient au combat. Et il dit donc ça fait partie des bons traits de personnalité, de caractère des sahaba, qu'ils baissaient la voix lorsqu'ils faisaient le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et il dit que ça indique la sincérité d'un point de vue, et également ça empêche de déranger également celui qui est en train de se rappeler d'Allah aussi à côté de toi. Et ça c'est d'un autre point de vue. Et il dit donc en particulier lorsque les musulmans sont réunis dans la mosquée en train d'attendre la salat, eh bien c'est obligatoire dans ce cas-là pour celui qui se rappelle d'Allah et qui, ou bien qui lit le Coran, de baisser sa voix pour pas déranger ceux qui sont en train de faire la salat et qui lisent le livre d'Allah. Et il dit que c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers ses compagnons une fois alors qu'ils étaient en train de faire la prière de la nuit, et ils étaient divisés en différents groupes dans la mosquée, et certains lisaient à haute voix dans la salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous en train de vous recueillir et vous adresser à votre Seigneur, alors que certains d'entre vous ne nuisent pas à d'autres. Que certains d'entre vous ne nuisent pas à d'autres. Et il dit: وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ يعني عبر مكبرات الصوت في المساجد بتلاوة القرآن في الصلاة ممنوع لأنه يشوش على المصلين في داخل المسجد ويشوش على الناس خارجه في المساجد الأخرى وفي البيوت. Donc le cheikh il dit que donc on peut tirer de ça que de lever la voix avec les haut-parleurs dans la mosquée lorsqu'on récite le Coran, il dit que ça c'est pas permis. Yani il dit durant la salat quand on récite le Coran, c'est pas permis de lever la voix avec les micros et les haut-parleurs. Il dit parce que ça dérange les gens qui font la salat à l'intérieur de la mosquée, et ça dérange également les gens à l'extérieur des autres mosquées et dans les maisons. C'est vrai que des fois, subhanallah, je me rappelle, on était en Arabie Saoudite, wa alaykoum salam wa rahmatullah, on était en Arabie Saoudite et on faisait la prière parfois dans une mosquée, et on entendait la récitation de l'imam d'une autre mosquée en même temps que nous, on est en train de prier derrière un autre imam. Donc, des fois, ça fait comme si on dirait que deux récitations se rencontrent yani en même temps. Donc, ça dérange. Et des fois, on entendait le takbir de l'autre imam en même temps que celui-là. Donc, en tout cas, c'est... Des fois, ça peut causer des ennuis comme ça. هو قوله وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة عادة أهل الكتاب والأعاجم. يعني يلحظ من هذه أن من أسباب رفع منع رفع الصوت إضافة لما تقدم مشابهة أهل الكتاب لأن ذلك عادة لهم. Il dit que de lever la voix dans ces trois situations-là, c'est-à-dire lorsque on fait le rappel d'Allah, ou lors du combat, ou lors des janaïs, c'est-à-dire des funérailles. Il dit ça, c'est quelque chose qui fait partie des habitudes et des traditions des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et les non-musulmans, il y en a parmi les autres peuples. Et il dit que on peut donc noter que, ou on peut donc constater que une des causes qui fait partie de l'interdiction, ou qui montre l'interdiction de lever la voix, en plus de ce qu'on a mentionné, hein, c'est également l'interdiction de ressembler et d'imiter aux gens du livre, parce que ça c'est une de leurs habitudes. Hein? Et donc, ça vient confirmer encore l'interdiction d'imiter les koufars. Hein? Et puisque le livre, c'est ça le thème du livre, c'est l'interdiction d'imiter les koufars, donc ça c'est un hadith de plus qui vient confirmer ce principe de l'interdiction d'imiter les koufars. Après, le cheikh il dit ولقد ابتلي بهذا بهذه المظاهر كثير من هذه الأمة تقليدا لغيرهم والتقليد سرعان ما يسري في الناس خصوصا عند انتشار الجهل وقلة العلم وعند ضعف الوازع الديني لأن الضعف يقتضي بمن يراه أقوى منه ويظن أن هذه القوة إنما حصل عليها من خلال هذه المظاهر التافهة التي يقلد فيها بعض المسلمين. أي نعم. Donc, le cheikh, il explique que beaucoup de ces apparences actuellement, hein, beaucoup de gens ont été éprouvés par ces choses-là à notre époque, parmi les gens de cette Ummah, et ils ont été éprouvés par ça parce qu'ils imitent, yani, les... Yani, parce qu'ils ont imité les autres. Yani, ils ont imité les koufars. Et c'est ça qui fait que, malheureusement, ces choses-là se propagent parmi les musulmans. Non. Donc, désolé, je m'excuse. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il dit beaucoup de musulmans ont été éprouvés dans cette Ummah par l'imitation des autres, et lorsque les gens imitent, hein, d'autres peuples, d'autres personnes parmi les koufars, en particulier, il dit que ça se propage très rapidement, et en particulier lorsque il y a la propagation de l'ignorance, lorsque l'ignorance est propagée et que les gens ont peu de science, et également lorsque les gens ont peu de religiosité, ils ont peu de piété, hein, ils sont faibles dans leur foi, et donc ils commencent donc à essayer d'imiter les autres, et c'est ça, ça c'est un malheur. Et le cheikh il dit que la faiblesse implique que la personne veut essayer de suivre ce qu'elle voit comme étant plus fort, ce qu'elle voit comme étant plus fort. Donc si elle voit un autre peuple et qu'elle voit que qu'est-ce qu'elle fait comme tradition et comme coutume semble plus fort pour elle, elle va l'imiter. Alors qu'en réalité, c'est des choses futiles, hein, et des choses totalement ridicules. Mais si la personne commence à voir de la force en ça, c'est parce qu'en elle-même, elle a un problème. Elle a un problème de faiblesse en elle-même, et souvent ça c'est des problèmes de complexe, d'infériorité, des choses comme ça. Parce qu'elle voit que qu'est-ce que les kuffars font, c'est mieux que qu'est-ce que le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont enseigné. Et ça, c'est un problème, un grave problème dans la foi et dans le cœur. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit également, il dit, وأيضا عن عمرو بن ميمون الأزدي قال قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثابير كيمان غير. قال فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال خالف هدينا هدي المشركين خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب بالإفاضة بعد الغروب. ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. Donc le cheikh explique que également il s'est rapporté selon Amr ibn Maymoun al-Azdi, selon Omar radiyallahu anhu, il dit que les gens de la jahiliya ils ne partaient pas, ils ne déferlaient pas de leur rassemblement à l'endroit où ils étaient, comment ça s'appelle, Muzdalifa. Donc ils ne quittaient pas Muzdalifa avant d'avoir avant que le soleil se soit levé. Puis ils disaient le soleil s'est levé sur Sabir, et donc à ce moment là ils partaient, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a contredits. Il a contredit les mouchriquins et il a déferlé avant le lever du soleil. Et il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit faites le contraire, ou distinguez-vous de la voix des mouchriquins. Notre voix a contredit celle des mushrikin. Et il dit c'est ainsi que également il déferlait de Arafat vers Muzdalifa avant le ghuroub, c'est-à-dire avant le coucher de soleil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contredit les mushrikin dans ça aussi, et donc il partait après, seulement après le coucher de soleil. Il quittait seulement Arafat après le coucher de soleil. Et il devait rester obligatoirement. Donc il dit que, il explique que on doit rester à Arafat obligatoirement jusqu'au coucher de soleil. Selon la grande majorité des ulama, c'est obligatoire, et même que pour certains c'est un pilier du Hajj. Et ils ont également détesté attendre que le soleil se que le ciel devienne très clair le matin de Muzdalifa. C'est-à-dire, il détestait de rester à Muzdalifa jusqu'à ce que le ciel devienne très clair. Et donc, il dit, puis ensuite, il a mentionné un hadith à ce sujet qui indique que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, c'était pour contredire la voix des mushrikins. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit que al-mushrikun kanu yahujjun al-bayt wa hadha al-hajj huwa ma warathu aw warithu min baqaya din Ibrahim alayhi salam illa annahum ahdathu fihi ashya'a mubtada'a min 'indi anfusihim فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أعاد الحج على ملة إبراهيم. ومن الأمور التي ابتدعوها أنهم كانوا إذا لبوا قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم زادوا إلا شريكا هو لك، يشيرون بذلك إلى معبوداتهم لأنهم اتخذوها بزعمهم وسائط فيما بينهم وبين الله وشفعاء لهم عند الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qu'ils ont innovées également, il y a le fait que quand ils faisaient leur talbiya, ils disaient la bayka la sharika lak, c'est-à-dire yani me voilà, je suis là ô mon Seigneur, yani et tu n'as pas de partenaire excepté un partenaire qui t'appartient. Un partenaire qui est à toi, qui t'appartient et à qui tout ce qu'il possède t'appartient aussi. Qui t'appartient et que tout ce qu'il possède t'appartient aussi. Et donc ils ont rajouté, excepté un partenaire qui est à toi. Et ils veulent dire par là, yani leurs idoles. Yani subhanallah, parce que ils avaient pris ces idoles comme des intermédiaires entre eux et Allah, comme ils le prétendaient, ou comme intercesseurs pour eux auprès d'Allah azza wa jal. Il dit wa min al umur allati ibtada'uha adam al wuquf bi arafah wa kana hadha lil humus للحمص من قريش خاصة، فإنهم لا يذهبون للوقوف بعرفة وإنما يقفون في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وذهب إلى عرفة ووقف فيها، وكانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة فخالفهم وأجاز إلى عرفة إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكانوا في ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة إذا أفاضوا منها إلى منى في الصباح يتأخرون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو الجبل المطل على مزدلفة أو على مزدلفة، وكانت الشمس أول ما تخرج تشرق بنورها على ظهر الجبل المرتفع ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين. Donc le cheikh il explique un autre exemple de la contradiction qui a été établie par le prophète صلى الله عليه وسلم pour ce que faisaient les mushrikins durant le hajj. Et il dit que également parmi les choses que les mushrikines avaient innové dans le hajj, c'est qu'ils ne se tenaient pas à Arafah. Ils ne se tenaient pas à Arafah. Pendant le hajj, eux, ils disaient, en particulier les gens de Quraysh, qu'ils n'allaient pas jusqu'à Arafah pour se tenir à Arafah parce qu'ils se tenaient juste à Muzdalifah. Ils restaient juste à Muzdalifah. Et il disait pourquoi? Parce que nous sommes les gens du haram. Et donc on ne sort jamais du haram. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a contredits dans son hajj d'adieu. Et il est allé jusqu'à Arafah. Et il s'est tenu là-bas. Et donc eux ils pensaient que lui il allait rester avec eux à Muzdalifah. Les mushrikoun pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait rester avec eux à Muzdalifah. et il les a contredits, hein, et il les a dépassés, il est parti jusqu'à Arafat pour faire revivre la sunna d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, puis déferlez de là où déferlent les gens. Et il dit que ensuite, lorsque yani, il passait la nuit à Muzdalifa, après le coucher du soleil, il quitte Arafat et ils s'en vont donc passer la nuit à Muzdalifa. Et donc, avant de partir, comme si il passe la nuit à Muzdalifa, puis il prie le subh, puis après, yani, il part à Mina avant le lever de soleil. Tandis que les mushrikoun, eux, ils attendaient à ce que, jusqu'à ce que le soleil se lève sur la montagne. Et quand le soleil se levait sur la montagne qui s'appelle Thabir, et bien à ce moment-là, eux, ils partaient. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc contredits, hein, a contredit ce qu'ils faisaient. Et au lieu d'attendre jusqu'au lever de soleil, ils partaient avant le lever de soleil pour aller vers Mina. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre voix a contredit celle des mushrikins. Hein? Et il dit, وَمِمَّا ابْتَدَعُوهُ مَا أَحْدَثُوهُ الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ومن المعلوم أن الوقوف بعرفة للحجاج في يوم التاسع هو الركن الأعظم من أركان الحج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف في عرفة بالنهار فإنه يجب أن يستمر وقوفه إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب أما المشركون فكانوا ينصرفون منها قبل غروب الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيا ملة أبيه إبراهيم بوقوفه حتى الغروب وقيل هو ركن من أركان الحج وقيل إنه واجب وليس بركن فالركن هو الوقوف جزءا من الليل أو النهار أما الاستمرار في الوقوف إلى الغروب فهو واجب من واجبات الحج وليس بركن. Donc le cheikh explique que parmi les choses que les mushrikins avaient inventées également et innovées dans le hajj, c'est le fait de déferler de Arafat vers Muzdalifa avant le coucher du soleil. Donc les mushrikoun, eux, ils quittaient Arafat, hein, avant le coucher du soleil. Et il dit qu'on sait très bien que les hujjaj, quand c'est le 9e jour de Dhul-Hijjah, ils doivent rester à Arafat. Et que ça, c'est le plus grand pilier parmi les piliers du Hajj. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-Hajj Arafat. C'est-à-dire, le Hajj, c'est de se tenir à Arafat. Donc, celui qui s'est tenu à Arafat pendant le jour, il est obligatoire pour lui de rester. Hein? Il est obligatoire pour lui de rester et il doit rester jusqu'au coucher du soleil. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il ne doit pas s'en aller et quitter Arafat avant le coucher du soleil. Tandis que les mushrikoun, eux, ils quittaient, yani, ils quittaient avant le coucher du soleil. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait revivre la sunna d'Ibrahim. Hein, il a fait revivre la religion d'Abraham. Et donc il est resté à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et il dit وَقِيلَ هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. Certains ont dit que c'est un pilier parmi les piliers du Hajj. Et d'autres ont dit non, c'est une obligation et non pas un pilier. Car le pilier, c'est de rester une partie de la nuit ou du jour. Il dit, en ce qui concerne le fait de rester hein, sur Arafat jusqu'au coucher de soleil, il dit ça c'est obligatoire, ça fait partie des obligations du Hajj, mais ce n'est pas un pilier. Et en passant, juste une note, certains musulmans s'imaginent que Arafat c'est la montagne, hein, c'est uniquement la petite montagne qui est à Arafat. Et donc les gens ils vont particulièrement essayer de monter sur cette montagne là, alors que en réalité non, Arafat c'est toute la région hein, qu'on appelle cette région là qu'on appelle Arafat, c'est la montagne et tout ce qui est autour. Et donc je pense qu'en ce moment ils ont mis même des panneaux pour indiquer les limites de Arafat. Donc tant que tu restes à l'intérieur de ces limites, et tu es sur Arafat. Donc même si tu restes dans ta tente à Arafat, hein, puis que tu restes là-bas pour faire le dhikr et le rappel et lire le Coran et faire des invocations, eh bien, yani, dans ce cas-là, tu es sur Arafat, tu es à Arafat. C'est pas nécessaire que tu ailles sur la montagne. Donc ça, c'est juste un petit point en passant. Naam. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, on continuera ça au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته